exactly how.
Radio Duclos.
Culture. 3, 2, 1, 0.
Les élèves de la classe de 4e 2 ont joué au reporter en herbe, aux côtés de Maxime Sermet de Voix du Patrimoine et de l'association Vive la Taz, à la quête de témoins de l'histoire de la Taz et de la soie.
Comment vous appelez-vous ?
Bon, je vais commencer. Moi, je m'appelle Hélène Gratanon. Donc, personnellement, j'ai pas vécu à Cité Taz, mais j'ai mon grand-père qui est arrivé, qui était un des premiers arrivés en 1926. Et j'ai mon père qui a vécu donc à la Cité Taz. Et moi, j'y ai passé mes vacances scolaires. Voilà. Donc, mon grand-père faisait beaucoup de photos. Et à l'époque, c'était sur des plaques en verre. Et du coup, j'ai conservé tout un tas de souvenirs donc sur la Taz. Des photos qui datent de 26 jusqu'à les années 70. Et donc, je les ai fait partager à l'association Vive la Taz.
Et vous, du coup,
madame ? Moi, j'accompagne toujours. Oui, non, moi, j'ai grandi à la Cité Taz. Hein. Je crois que j'en ai peut-être rencontré déjà quelques-uns. Hein. On s'est peut-être déjà rencontrés.
Votre grand-père, il vous a rappelé quoi pour aller ?
Alors mon grand-père il était au blanchiment dans l'usine hein, sur les fibres artificielles. Donc déjà il y avait des conditions de travail assez difficiles puisqu'il n'y avait pas tous les domaines de sécurité qu'on a actuellement, c'est-à-dire l'évacuation des fumées, des produits chimiques, puisqu'il y avait beaucoup de produits chimiques. Mais mon grand-père il m'a surtout parlé du côté festif de la Cité Taz. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà directeur de l'harmonie. Donc l'harmonie c'est une fanfare hein, si vous préférez. Et donc il a monté l'harmonie, et l'harmonie elle est montée très très haut dans des concours départementaux. Et il m'a surtout raconté le côté festif, et moi de la Cité Taz j'ai des très très bons souvenirs. Bon, évidemment de réunions familiales, mais aussi j'aimais bien le cadre de vie, des petites maisons, moi qui venais d'un quartier très très restreint. Donc je trouvais ça très agréable et j'ai plus des souvenirs sur le côté agréable et festif de la cité que sur le côté travail. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup de gens ne parlaient pas forcément de leur travail, parce que effectivement c'est des travaux difficiles, les conditions de travail étaient difficiles. Et mon grand-père m'a énormément parlé aussi de la guerre, puisqu'il y a eu des bombardements qui ont eu lieu juste à côté. Et donc, il se réfugiait il y avait des petites caves sous les bâtiments. Et c'était très impressionnant de voir toutes les fusées, les éclats d'obus, etc. Donc, je dirais la guerre et côté festif et très peu de son travail. Voilà. Donc, il y avait des festivités internes où l'harmonie jouait, mais ils allaient dans d'autres villes pour passer des concours, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont appris la musique comme ça, quoi, qui étaient, je veux dire, qui connaissaient rien et qui sont venus là, qui ont appris la musique. Et puis il y avait aussi comme une famille, en fait. Donc voilà, et puis ça changeait un peu, je dirais, du quotidien.
Oui, puis de nombreux.
En fait, il y avait une vie après le travail, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est important. Il n'y avait pas que l'harmonie, il y avait aussi des cours de théâtre, il y avait énormément d'associations sportives aussi, parce que j'ai retrouvé des associations de basket et autres sports. Donc il y avait une vie après le travail.
C'est vrai qu'il y avait de nombreux ouvriers qui participaient à l'harmonie. Et j'ai appris là, grâce à toi que, bon, moi, que j'avais un voisin, mais je connaissais qu'en tant que voisin, et jamais je me serais imaginé qu'il faisait partie de l'harmonie.
Ouais.
C'est pas c'est incroyable hein, ce que ça pouvait, le nombre d'ouvriers qui participaient quand même à
l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose qui est... Qui c'est qui finançait cette...
Alors, l'harmonie, tout était financé par l'usine, je dirais.
Par l'usine,
parce
oui,
que,
voilà.
Bon, il n'y avait pas que l'harmonie, hein, il y avait des clubs de sport et autres. Il faut savoir que dans les milieux nord ouvriers, parce que même dans le nord, on retrouve beaucoup de gens qui font de la musique. À l'époque, il y avait beaucoup de... Dans les cités ouvrières et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'activité musicale. Après, en ville, ça se perd. On retrouve ça des fois dans les campagnes. Et c'est vrai que maintenant, dans les grandes villes, ça se perd, quoi.
Parce qu'il avait là aussi l'intérêt de l'usine, de proposer autre chose que juste le travail, la maison et l'école.
En fait, je ne sais pas si c'était l'intérêt, mais bon, les locaux, c'était des locaux d'usine, les déplacements étaient payés par l'usine. Ouais. etc. Après, je veux dire, parce qu'il n'y a pas que ça qui était lié à l'usine. Tout était lié à l'usine. Hein. Mm. Les soins infirmiers étaient liés à l'usine. Je veux dire, toutes les activités étaient liées à l'usine, que ce soit en interne ou en externe. Hein. C'était, on était quand même dans les années de 26 à 50. C'était quand même le patriarcat, je dirais, industriel. Hein. Ça fonctionnait comme ça.
Oui, l'église aussi, les curés étaient payés par l'usine aussi. Oui. Voilà, ouais. Tout était...
Voilà. On a parlé tout à l'heure par rapport à la place de l'ancienne usine. Et est-ce que, on parlait de fanfare là, est-ce que sur les moments de grande grève, par exemple, vous a raconté des choses, votre...
Alors, sur, en 36, moi, ouais. Bon, il m'a pas trop raconté de choses sur 36. Okay. Il m'a surtout raconté des choses pendant la guerre, parce que lui était mobilisé. Okay. Et quand il est rentré, il était chargé de récupérer, enfin, de accueillir tous les prisonniers de guerre qui étaient donc qui revenaient à la TAZ. Okay. Donc il y a eu un accueil des gens qui revenaient de guerre. Et après ils participaient aussi à tout ce qui était, bon, il y a eu des cérémonies pour les morts pour la France, donc ils participaient à tout ça. Hein.
Pour le retour des prisonniers, il y a eu un grand repas aussi, donc.
Parce que faut savoir que bon, ça a quand même marqué énormément les populations.
Hein. Oui, parce qu'ils étaient quand même nombreux à être ou mobilisés ou prisonniers de guerre.
Ouais,
hein,
ouais.
Prisonniers de guerre, ça représentait combien, vous avez une idée?
Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais bon, mais dans toutes les familles étaient concernées par cette guerre. Hein. Soit parce qu'il y a eu un mort, soit parce qu'il y avait un prisonnier. Et puis les gens étaient quand même traumatisés parce qu'il y avait des bombardements qui étaient à côté. Hein. Et ils avaient peur justement que les bombes tombent sur l'usine, parce que l'usine était une bombe en puissance. Avec tous les produits chimiques et tout ce qu'il y avait dedans, ils se disent, si ils se ratent et les bombes tombent sur l'usine, on y explose.
Il ne s'est rien passé.
Non. Mais je pense que, à ce qu'on m'a dit, les bombes sont tombées sur l'hippodrome.
Ah ouais.
Donc c'est pas loin, hein.
Il y en a
juste
une,
à côté.
Il y en a une, qui est tombée dans les jardins des grandes cités aussi. Ouais. Parce qu'on avait l'aérodrome, c'était Bron à l'époque. Ouais. Hein, voilà, c'était Bron.
Ouais.
L'aérodrome.
Il y en a parmi vous là qui vivent la grande cité. Toi, t'es pas à la TAZ?
À la TAZ, c'est vers Jeunesse.
C'est ça dont on parle quand on dit les grandes cités. Ça veut dire qu'il y a eu un bombardement à côté des immeubles de la TAZ. Il y a une plaque, quelque chose?
Alors, j'ai vu une plaque. Il y a une plaque qui existe, qui est pas loin du stade de foot.
Oui, l'usine, les grands bureaux, vers la Boulançoire. Voilà,
il y a des plaques.
Voilà.
Ouais.
Une plaque commémorative. Là, c'est pour ceux qui sont morts. Hein,
ouais.
Est-ce que votre grand-père, il vous a raconté des soucis de santé éventuellement liés à son travail? Vous disiez blanchisseur?
Il était dans le blanchiment des fibres. Okay. Parce que bon, au début, c'était la viscose. Ensuite, ça a été... Enfin, tu connais mieux l'histoire que moi.
Non,
ça a évolué sur la soie artificielle. Mmh. Ensuite, pour passer au nylon et pour terminer, je pense, sur les pneus.
Donc, il a manipulé des substances.
De toute façon, tous les ouvriers qui travaillaient dans le textile manipulaient des substances. Alors, soit dans le blanchiment, soit dans la teinturerie. Bon, là, il n'y avait pas de teinturerie, mais sur Villeurbanne, il y a plein d'industries de teinturerie. Et les gens, ils étaient affectés. Parce que moi, je connais des gens qui, suite à avoir travaillé dans les teintureries, puisqu'on pompait dans les nappes phréatiques l'eau pour faire les bains et tout ça, qui ont chopé des maladies du type Parkinson, des choses comme ça. Ça n'a jamais été reconnu comme maladie professionnelle à l'époque parce qu'on ne savait pas. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui, quand même, avaient des ennuis de santé. Hein. Après, sur les autres métiers, je pense qu'il y avait aussi des soucis de santé,
bien
j'imagine.
Sûr.
Hein. Les postures, le dos, enfin des choses comme ça. Hein. Mm. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que c'était pas dans les... Enfin, on travaillait dans des... Il n'y avait pas toutes les réglementations qu'on a actuellement. Mm. Et des fois, il y avait des odeurs qui sortaient de l'usine. Moi, je me rappelle, quand je suis gamine, il y avait des fois des odeurs. Hein.
C'est vrai, oui.
Et voilà, donc... Bon, on était moins écolo que maintenant, on ne raisonnait pas de la même manière. Enfin, mais je pense qu'il y a eu des conséquences sur tout ça. D'ailleurs, les gens vivaient moins vieux que maintenant. Hein.
Oui, bien sûr.
Ouais. Moi, je sais que mon grand-père était donc de la vallée du Gier, donc de Saint-Chamond-Izieux. Donc déjà, sur Izieux-Saint-Chamond, il y avait déjà des usines Gilet à l'époque. Gilet, c'est le fondateur des usines.
Voilà.
En fait. Donc c'était un grand industriel qui a développé des usines sur Saint-Étienne, Saint-Chamond, la vallée du Gier, Villeurbanne, Lyon 9e et la cité Taz, qui est à l'origine du truc. Après, moi je sais que, en fait, quand les gens sont venus ici, il y avait le pour et le contre. Dans le sens où les gens arrivaient, il y avait une énorme crise du logement à l'époque. Donc les gens arrivaient, ils avaient un logement, ce qui était déjà formidable. Mmh. Bon, il n'y avait peut-être pas tout le confort dans le logement, mais je veux dire, par rapport au logement insalubre et les bidonvilles qui existaient à l'époque sur Villeurbanne, ils avaient, l'électricité était gratuite, l'eau aussi. Il y avait tout un tas de choses qui faisaient que c'était un plus, je dirais, de venir travailler dans la cité. À l'époque.
Oui, puis c'était un rapport de vivre ensemble qui était très fort.
Il y avait un vivre ensemble, je pense, très fort. Enfin, moi, le souvenir que j'en ai de ce que m'a dit mon grand-père, c'est que il y avait les gens s'invitaient de maison en maison, etc. Il m'avait raconté une anecdote, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, donc ma grand-mère, pour inviter sa voisine à prendre le café, elle mettait un foulard, quand elle était disponible, elle mettait un foulard à sa fenêtre. Et comme ça, la voisine, quand elle voyait le foulard, elle disait « Ah bah, oui, venir boire le café ».
Vous, vous avez dit que vous n'êtes pas née à La Taz ?
Non, pas du tout.
Et vous ?
Bon, non, pas. Je suis née à Vaux-en-Velin quand même, mais bon, je suis arrivée à La Taz à l'âge de 4 ans. Voilà, pareil. Pareil, je venais d'une petite maison, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc après, dès que mon papa était embauché, on avait le droit à un logement avec eau, électricité. Hein, c'était. Voilà.
On a parlé qu'il y avait beaucoup de personnes d'Hongrie qui étaient en France. Moi, j'ai une question. C'est quoi votre origine ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout hongroise. Française, lyonnaise. Enfin, région Saint-Étienne, Lyon, etc. Mais effectivement, parce qu'à l'époque, déjà on recherchait des gens qui avaient des savoir-faire. Donc il y en avait dans différentes. Il y en avait même dans l'est de la France, vers Strasbourg et autres. Il y en avait ailleurs. Et puis on recherchait de la main-d'œuvre aussi. Hein. Donc voilà, je pense qu'ils sont allés chercher des. Moi je sais que mon grand-père travaillait déjà à l'époque dans des gilets, machin. Et on lui a demandé de venir à La Taz parce qu'il cherchait du savoir-faire. Après, il y a eu toute une immigration parce qu'il y avait vraiment de l'emploi, etc. Donc, il y a eu la Hongrie, il y a eu d'autres populations qui sont venues d'autres pays.
Oui, il y a eu la Pologne,
hein.
Il y a eu le. Qu'est-ce qu'il y a eu là ? La Hongrie, Pologne, Arménie, des Russes qui avaient fui leur pays,
oui.
Aussi des Russes blancs. D'ailleurs, qui avaient de très bonnes places à l'usine. Les Russes blancs avaient de très bonnes places. Ils étaient quand même. Ils avaient fait des études chez eux.
Ouais.
Et là, ils avaient quand même de très bonnes places.
Ça veut dire qu'ils aimaient leur travail
moi, je pense qu'ils aimaient leur travail, même si c'était difficile.
Oui, c'est vrai.
Je pense que les gens aimaient leur travail. En tout cas, mon grand-père aimait son travail. Il y avait un respect du travail. Enfin, je veux dire, c'était. On ne faisait pas 35 heures à l'époque. Hein. C'était des. Combien ?
Mais 48 et même.
Et avant, des 48 heures.
Hein. Et avant les grèves de 36, c'était même 70 heures.
Ouais, oui, oui.
C'est du temps de travail légal d'aujourd'hui.
Voilà.
Ouais, oui. Donc,
et voilà. Il fallait travailler pendant ces 70 heures.
Ouais, ouais.
C'était vraiment travailler.
En plus, après, il y avait des horaires coupés, des choses comme ça. Donc c'était.
Travail de nuit, travail 3-8. Donc c'était de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures du matin.
Ouais.
Puis après, s'il y avait un ouvrier qui manquait, et bien, il venait frapper à la maison et il fallait y aller. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est pour ça qu'on était tous, on habitait tous autour, de façon à, dès qu'il y avait un souci, il venait frapper, allez, il fallait doubler sa journée, et on discutait pas, on y allait, hein. Enfin, il y allait, c'est vrai que...
Ouais. On pouvait pas refuser.
Non, et puis content de pouvoir faire des heures aussi,
ouais.
C'est que ça apportait quelque chose de faire des heures supplémentaires. Maintenant, on veut travailler 35 heures, mais à l'époque, c'est grâce quand même à tout ce travail qu'on a eu aussi en plus, qu'on a pu se payer...
Mais il y a quand même eu des mouvements ouvriers, quand même.
Ah oui. Ah oui, mais bon, parce qu'on a là, maintenant, on s'installe, on a tout. Alors qu'avant, on achetait un frigo, une machine, tout est arrivé petit à petit. Hein.
Et pas de télévision.
Pas de télévision, voilà.
Il y avait un syndicat à La Taz, du coup ?
Oui, il y avait de nombreux syndicats. Mais surtout la CGT. Hein. Après, il y avait le syndicat des cadres aussi, bien sûr.
Ouais.
Hein, il y avait les cadres.
Il y avait beaucoup d'affiliés à la CGT ?
Énormément.
syndicat avait des travailleurs de la TAZ qui habitaient loin de l'usine.
Oui, aussi, oui, qui habitaient hors de hors Vaux-en-Velin, oui, oui.
Vous n'habitez pas tous dans le quartier de la TAZ?
Non, non, non. Bon, il y en a qui habitaient à Lyon, Villeurbanne, et puis même de l'autre côté, Décines, Crémieux.
Et les déplacements, ils étaient organisés comment pour ces gens pour venir à l'usine?
Il y avait des cars.
Des cars.
Puisque dans une vidéo, les sœurs, les fameuses sœurs Bozzi qui venaient de Hongrie, racontent que pendant les grèves de 36, elles se couchaient devant les cars qui ramenaient les ouvriers de Crémieux et de plus loin. Elles se couchaient pour pas que les cars passent. Il y avait ceux qui venaient travailler, mais voilà.
Est-ce que vous trouvez que le quartier de la TAZ, il a beaucoup changé?
Oui, quand même. Il a énormément changé.
Il faut savoir qu'à l'époque, en 1926, il n'y avait rien. Hein. C'était des champs autour. Hein.
Voilà.
Donc le quartier s'est construit. Il a changé, mais ce qui est quand même, je trouve, intéressant et important, c'est que il a changé, mais on a conservé ses traces historiques. C'est-à-dire une partie de l'usine, les petites cités, les grandes cités. Moi, je trouve que c'est important, même pour les jeunes, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, de conserver quand même... tout ce qui a fait l'histoire de. Une partie de l'histoire de Vaux-en-Velin, l'histoire de nos ancêtres et tout ça. Donc moi je suis bien contente, ça change. Mais au moins on améliore, on retrouve des choses.
D'ailleurs, je sais pas, vous avez vu, aux grandes cités, ils sont en train de les repeindre avec les couleurs d'origine.
Oui, oui.
Ouais. Bon, ils vont rajouter les ascenseurs, hein, non? Oui. Chez toi aussi,
et,
là,
il va y avoir des. Avec un moteur.
Wow.
Ascenseurs et dans certains balcons. Mais bon, mais ils gardent quand même le. Les meubles.
La structure d'origine.
Voilà, voilà.
Parce que bon, ça a pu être démoli. Oui. Comme le vieux Lyon à Saint-Jean, s'il n'y avait pas eu des gens, des associations qui s'étaient levées, qui avaient lutté, on n'aurait plus tout le quartier Saint-Jean. Il devait être démoli. C'était Pradel qui avait prévu de démolir. Et ici, il y a quand même des gens qui ont œuvré. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui ont œuvré, parce que je viens juste d'arriver, mais il y a quand même des gens qui ont œuvré pour conserver tout ce patrimoine. Je trouve ça très bien, très important.
Il y a quand même 8 bâtiments qui ont été démolis. Hein. Sur les 20, il en reste 12, donc c'est pas mal.
Ah oui,
il y en a 8 qui sont, voilà, tous ceux qui sont vers le tramway, là, enfin d'accord. Le passage du tramway, là, il en manque.
Oui, le collège Jacques Duclos, est-ce qu'il existait avant? Et dans quelle école vous étiez?
Alors, Jacques Duclos n'existait pas, bien sûr. Et moi j'allais à l'école qui était juste en face d'ici, une école qui s'est appelée Jeanne d'Arc. Non, c'est d'abord appelée École de la Soie Artificielle, ensuite École de la Poudrette, ensuite elle s'est appelée École de la Taz, et ensuite École Claude Cogan. Voilà, donc elle a changé. Et elle a été démolie.
Ah, mais c'est celle d'en face.
Voilà, celle d'en face, oui.
Vous parlez Maxime, juste en face.
Oui.
Sachant qu'à l'époque, il y avait l'école des garçons, l'école des filles.
Voilà.
Hein. C'était pas mixte à l'époque. Hein. Et on avait des blouses. Moi, je me rappelle, une semaine blouse marron, une semaine blouse rouge.